Chapitre 15. La fuite éperdue de l'impératrice Eugénie. Cette soirée restera pour le docteur Evans l'étonnement de sa vie. Elle justifiera plus tard qu'il écrive ses mémoires. Thomas Evans est un dentiste originaire des États-Unis, installé à Paris depuis le règne de Louis-Philippe. Habile à soigner les grands de ce monde, il a amassé une fortune suffisante sous le Second Empire pour s'offrir au coin de l'avenue Malakoff et de l'avenue de l'Impératrice, notre actuelle avenue Foch, un hôtel particulier. C'est là que va se produire l'inimaginable. En ce dimanche 4 septembre 1870, le bon docteur, la cinquantaine bedonnante, a eu vent des troubles suscités à Paris par la défaite de Napoléon III face aux Prussiens, le désastre de Sedan 3 jours plus tôt. Accompagné de son confrère Crane, un compatriote, il a voulu prendre le pouls du peuple et s'est rendu en calèche aux Champs-Élysées. Poussant jusqu'aux abords de la place de la Concorde, les deux curieux ont vu la foule agrippée aux grilles des Tuileries et clamant « Déchéance ! Vive la République !» Puis ils ont mis le cap sur le bois. Repassant devant chez lui, Evans arrête un instant la calèche, quelques consignes à donner au personnel en vue d'un dîner d'amis prévu pour le soir même. Madame Evans, passant l'été à Deauville, il faut se débrouiller. Alors qu'il inspecte la cuisine, le maître de maison est interpellé par son majordome. « Monsieur, deux dames qui ne m'ont pas donné leur nom sont là depuis un long moment. Elles ont insisté pour voir monsieur, je les ai fait patienter au rez-de-chaussée. » « Deux dames ? Un dimanche soir ?» Intrigué, le docteur Evans se dirige vers la bibliothèque et manque de tomber à la renverse. Car la dame au visage blême qui se dévoile la première, vêtue chichement d'une robe de cachemire noir, cette visiteuse inquiète sous son chapeau rond de voyage, n'est autre que Sa Majesté l'impératrice des Français, cette Eugénie que la foule en colère poursuit depuis peu de sa vindicte et n'appelle plus que l'Espagnole. « Vous le voyez, lance-t-elle en étouffant un sanglot, je ne suis plus heureuse. Les mauvais jours sont venus. » Evans peine à recouvrer ses esprits. « Madame, je suis venue à vous, poursuit l'impératrice Eugénie, parce que j'ai une entière confiance en votre dévouement à ma famille. Le service que je vous demande pour moi et pour Madame Le Breton serait de nous aider à gagner secrètement l'Angleterre. » Cette scène étonnante est le fruit d'un concours de circonstances. Tout avait commencé 39 jours plus tôt, le 28 juillet. Ce matin-là, Eugénie avait accompagné jusqu'à la gare privée de Villeneuve-l'Étang, au bout du domaine impérial de Saint-Cloud, son mari, Napoléon III, et leur jeune fils de 14 ans, partant tous deux pour Metz et pour la guerre. À l'époque, l'impératrice s'était sentie partagée entre ses angoisses de mère et d'épouse et sa fierté de régente, chargée de l'État pour le temps des opérations. Certes, cette guerre contre la Prusse, où l'on entrait sous la pression de l'opinion, restait une aventure. Le régime était à bout de souffle, les armées n'étaient guère prêtes quant à leur chef. C'est un empereur bien diminué qui s'en était allé au combat, grimaçant de douleur du fait d'un gros calcul à la vessie. D'ailleurs, le télégraphe avait bientôt fait pleuvoir les mauvaises nouvelles sur Saint-Cloud et sur les Tuileries. Après le demi-succès de Sarrebruck, le 2 août, on avait appris, dès le 4, la défaite de Wissembourg, puis le 6, les désastres immenses de Frochevillers et de Forbach. L'impératrice avait pleuré, le plus discrètement possible. Le 9 août, elle ne s'en était pas moins opposée au retour de l'empereur à Paris. Accès de vanité ou désir forcené de sauver l'honneur du régime, selon les confidences qu'elle devait faire bien plus tard au diplomate Maurice Paléologue, chaque jour apportait son lot de calamités. Le vendredi 2 septembre, alors que la capitale se préparait à un siège inévitable, on lui avait transmis la dépêche de Sedan. Peu de mots. L'armée est défaite, n'ayant pu me faire tuer au milieu de mes soldats, j'ai dû me constituer prisonnier pour sauver l'armée, Napoléon. Pour Eugénie, le coup avait été violent. Si l'on en croit Maurice Paléologue, elle s'était ruée chez ses secrétaires, refusant d'admettre les faits. Puis, les traits convulsés, elle s'était lancée dans des imprécations inouïes. Comme elle, la population parisienne, longtemps aveuglée par la presse, avait reçu la nouvelle avec surprise et colère. Des marges de la société avaient alors surgi les éternels frustrés. De petits groupes avaient hurlé en brandissant des drapeaux voilés de crêpes. À la chambre, de grandes voix leur avaient fait écho, à commencer par celle de Jules Favre qui, au milieu d'une nuit fiévreuse, avait demandé la déchéance du Second Empire. Dimanche 4 septembre 1870, aux Tuileries, l'impératrice Eugénie se lève tôt, après une nuit sans sommeil. Elle entend la messe, boit 2 tasses de café noir et avale un morceau de pain. Pas question pour elle de quitter Paris. Le général Trochu, gouverneur militaire, ne lui a-t-il pas juré que quiconque voudrait l'atteindre devrait d'abord passer sur son cadavre ? Des soulèvements populaires sont signalés à Lyon et dans d'autres villes. Craignant la guerre civile, les ministres réunis de bonne heure conseillent une prompte abdication, refus très ferme de la régente. Mais à 12h30, le marquis de Pienne, chambellan, introduit dans le Salon Bleu une délégation de parlementaires. Eugénie la reçoit les traits tirés, vêtue d'une robe noire toute simple. C'en est fini des crinolines et de la fête impériale. La régente se voit priée de remettre le pouvoir à une commission au nom des intérêts de la dynastie. « L'avenir de notre dynastie ne compte pas pour moi, rétorque la souveraine. Je ne pense qu'à l'avenir de la France. Ne faudrait-il pas pourtant s'incliner devant l'argument suprême, épargner au pays une révolution sous les yeux de l'ennemi ? » Au dehors, la tension a monté. Les plus excités arrachent partout les symboles du régime. La place de la Concorde est noire d'une foule criant « Suse à l'espagnol !» La troupe a reçu l'ordre de ne tirer sous aucun prétexte. La peur s'insinue dans l'entourage d'Eugénie. L'on voit se clairsemer le carré des fidèles. Or, à mesure que se rapprochent les clameurs haineuses, l'impératrice se fait plus hésitante. Ce sont 2 vieux amis des étrangers qui emporteront sa décision, l'ambassadeur d'Autriche, Metternich, et celui d'Italie, Nigra. La régente connaît assez l'histoire pour savoir à quelles extrémités peut se livrer une foule révolutionnaire. Elle cède. Mais que faire au juste? Et par où échapper à l'émeute? Comme Louis XVI en août 1792, comme Charles X en juillet 1830, comme Louis-Philippe en février 1848, un souverain, une souveraine en l'occurrence, doit quitter les Tuileries à la sauvette pour échapper à la vindicte. Mais rien n'a été prévu en ce sens. Certes, dès le 13 août, le gouvernement de la reine Victoria a fait passer à l'impératrice un jeu de passeport britannique vierge. Mais comment déjouer la foule en colère? Avant tout, s'extirper des Tuileries. Une souveraine n'a pas vraiment d'amis, mais Eugénie a pleine confiance en sa lectrice, Madame Le Breton. Puisque la discrétion commande qu'elle s'enfuit seule, ce sera donc en compagnie de cette personne discrète. L'on rassemble quelques affaires, un chapeau à voilette et un manteau de voyage imperméable, un coffret à bijoux, un sac de linge. Vers 1h30 de l'après-midi, un petit groupe de quelques gentilshommes et de 4 dames, sous la conduite des 2 ambassadeurs, emprunte donc l'escalier de l'impératrice, où salue imperturbable un garde de service. Parvenu au rez-de-chaussée, on gagne le petit perron par lequel, en 1791, Louis XVI était parti pour Varennes. Un coupé officiel attend, selon la consigne, mais les armes aux portières, comme la livrée du cocher, sont jugées bien trop voyantes. La foule menace plus que jamais. Demi-tour. L'idée qui s'impose alors est de quitter les Tuileries par le musée du Louvre. Mais au bout des corridors, les fugitifs trouvent fermée la porte de la grande galerie. Que faire ? Après un moment de panique, se présente le trésorier du palais qui, hurra, possède une clé. Eugénie, au bras du diplomate italien, traverse le salon carré, la galerie d'Apollon, la salle dite des 7 cheminées. C'est là que, devant la grande toile du radeau de la Méduse, mais oui, l'impératrice en fuite prend congé de ses fidèles. Dernier baise-main. Ultime révérence. Nigra et Metternich accompagnent Eugénie et Madame Le Breton jusqu'à l'issue de la colonnade du Louvre. Or, chose inouïe, ayant déniché rue de Rivoli un banal fiacre de louage, ils aident les dames à monter en voiture et les abandonnent à leur sort. Voici donc, au milieu des promeneurs du dimanche, à 2 pas de l'émeute, ces 2 dames essayant de passer incognito, commence alors la plus invraisemblable des courses à l'échalote. Eugénie et sa lectrice se sentent perdues. Chez qui se rendre? Quelle adresse donner au cocher? Chez Monsieur Besson, boulevard Haussmann, lance Madame Le Breton. C'est le premier nom qui lui soit venu à l'esprit. Malchance, le conseiller d'État s'est absenté. Les 2 fugitives attendent un moment dans l'immeuble, au 3e étage. L'impératrice épuisée va jusqu'à s'asseoir dans l'escalier. Mais il faut se rendre à l'évidence et chercher ailleurs. Pourquoi pas chez le chambellan, monsieur de Pienne? Il habite avenue de Wagram. L'idée est venue cette fois d'Eugénie. Les 2 dames, parties à pied, vont héler en route une voiture découverte et au bout du chemin, trouver à nouveau porte close. Si l'on en croit le mémorialiste Maxime Ducamp, une femme de chambre du marquis serait allée jusqu'à injurier l'impératrice en fuite. Voici comment, d'échec en échec, s'est finalement imposé le nom du docteur Evans et comment Eugénie s'est retrouvée en compagnie de Madame Le Breton dans la bibliothèque de son dentiste, avenue de l'impératrice. Thomas Evans, avec la permission de la réfugiée, met son ami Crane dans la confidence. Sitôt expédié le dîner d'amis, un plan est mis sur pied pour rejoindre Deauville, où se trouve Madame Evans donc. Le train serait le meilleur moyen, mais au cas où les nouvelles autorités françaises rechercheraient l'impératrice, le moyen manquerait de discrétion et c'est pourquoi, aux petites heures du lundi 5, les quatre fugitifs quittent le quartier dans le landau d'Evans. Comme lors de l'équipée de Varennes, chacun tient un rôle. Eugénie sera une malade anglaise que son médecin, Crane, raccompagne au pays, sous les auspices de son frère, Evans, et d'une infirmière, Madame Le Breton, fébrile et inquiète. La bonhomie d'Evans est un atout. Elle trompe sans peine la vigilance des factionnaires, à la grille de Maillot comme à l'octroi de Saint-Germain-en-Laye. Triel, Vaux, Melan, Paris s'éloigne, ce qui soulage l'impératrice et sa suivante. Un peu avant Mantes, on repose les chevaux. Ces messieurs en profitent pour ravitailler les dames. On ne pourra guère aller plus loin avec des bêtes attelées depuis 6 heures. Evans se met en quête de chevaux frais que le loueur accepte de mener lui-même jusqu'à Passy-sur-Eure. Le dentiste rapporte aussi le journal et apprend à ses compagnons d'infortune que, la veille, à l'hôtel de ville de Paris, a été proclamée la République. À la tête du gouvernement de défense nationale a été placé le général Trochu, gouverneur militaire. Trochu ! C'est comme si Eugénie était tirée d'un songe. Mais enfin, comment a-t-il pu nous trahir ainsi ? À qui aurais-je pu me fier si ce n'est à lui, un soldat choisi par l'empereur lui-même ? Sa voix se brise, ses yeux s'embuent. Il est 2 heures quand le nouvel équipage parvient à Passy, où il convient de trouver des chevaux frais et une autre voiture. Problème épineux. C'est finalement une fermière, Madame Évrard, qui consent à aider les voyageurs. Elle leur procure un cocher et 2 canassons mal assortis, l'un des deux est une sorte de poney, et un véhicule jugé par le docteur Evans, je cite, « si usé, si déchiré, si cassé, si repeint, si rapiécé, si raccommodé, si recloué, si reficelé, qu'on aurait pu lui donner le nom qu'on aurait voulu ». Avec sa vieille caisse verte et ses grandes roues jaunes vifs, il a toute la roulotte de saltimbanque, fouette cocher. À Évreux, il faut traverser dans cet équipage une fête patriotique où l'on crie « Vive la République !» Impossible d'atteindre Lisieux avant la tombée du jour. Et d'autant plus qu'après un nouveau relais, la guimbarde finit par céder au niveau du palonnier. Après avoir réparé tant bien que mal, il faudra se résoudre à passer la nuit dans une auberge sur la route de Bernay. En dépit de tous les efforts d'Evans, la chambre de ces dames est si pauvre, si comiquement rustique, qu'Eugénie, à bout de nerfs, est prise d'un irrépressible fou rire, au grand dépit de Madame Le Breton, qui goûte de moins en moins la folle équipée. Image inoubliable que celle de cette souveraine, hier encore au sommet de tout, riant à s'en faire mal de l'absurde chute que lui impose le sort. Le lendemain, c'est à bord du tortillard local que les 4 compagnons poursuivent leur odyssée jusqu'à Cerquigny où ils attrapent l'express Paris-Cherbourg. Un chef de gare a sans doute reconnu l'impératrice. Il lui a jeté, dira-t-elle, un regard de haine, mais il ne l'a pas dénoncé. Il est vrai qu'elle n'est pas recherchée, comme l'explique son biographe Jean Descartes. Je cite « Sur la foi d'une rumeur, les nouvelles autorités croient que Eugénie est passée en Belgique via Maubeuge dans la soirée du 4. » Ça l'eût tranquillisé de le savoir. Au-delà de Lisieux, il faut reprendre une voiture à cheval jusqu'à Deauville, enfin, et à l'hôtel du casino. Evans et sa « sœur » entre guillemets gagnent par l'escalier de service la chambre de Madame Evans, tandis que le « médecin anglais » et l'infirmière font diversion dans le hall. « Ah !» aurait soupiré l'impératrice en saluant l'épouse de son dentiste. « Je suis sauvée. Est-ce si sûr ?» Reste la dernière étape, celle de la traversée de la Manche. C'est après bien des palabres qu'Evans parvient à convaincre un régatier britannique, Sir George Burgoyne, et son épouse d'accepter à leur bord celle qu'il leur a présentée d'emblée sous son identité. De nuit, par un interminable sentier boueux, la fugitive et sa compagne, toujours avec le bon dentiste, Crane étant reparti, embarquent sur le petit yacht au joli nom de Gazelle. À peine à bord, la souveraine éclate en sanglots. Aurait-elle pu imaginer que le pire était à venir? Les 18 heures qui vont suivre seront les plus longues de la vie de nos trois fugitifs, car leur esquif sera la proie d'une tempête affreuse, si affreuse en fait, que, cette même nuit, elle enverra par le fond un vaisseau de guerre anglais, le Captain. Et quand, enfin, plus morts que vifs, les trois rescapés aborderont l'Angleterre, à l'île de Wight, ce sera pour se voir refuser l'accès d'un hôtel respectable, leur apparence ayant été jugée trop négligée par le réceptionniste. Souvent, par la suite, l'ancienne impératrice Eugénie devait raconter ce chapitre épique de son existence. Hors de l'aveu unanime, ce qui paraissait l'avoir le plus meurtri dans l'aventure n'était ni la guimbarde vert et jaune, ni l'hôtel des courants d'air, ni les regards en coin, ni même la tempête au cours de laquelle Madame Le Breton s'était tant cramponnée à son chapelet, non, la péripétie qui, comme au premier jour, continuait de bouleverser la souveraine déchue, était la découverte inattendue par un titre dans un journal, de la stupéfiante, de l'impardonnable trahison du général Trochu. La suite des événements la vengera un peu. Trochu devra démissionner dès janvier 1871, après la calamiteuse sortie militaire de Buzenval. Trochu, cinglera Victor Hugo, participe passé du verbe trochoir.